Apple Différemment, c'est votre rendez-vous de vulgarisation du monde Apple. Je suis Matt, alias prof du web, fanboy Apple, et je suis heureux de co-animer l'émission avec Audrey Coulot, formatrice et autrice spécialisée du monde Apple. Au sommaire de cet épisode, nous allons parler des nouveautés 2019, des nouvelles options de réparation chez Apple. Le côté historique sera adressé avec Jonathan Ive. On va parler du mythique Jonathan Ive qui est parti de chez Apple. Et s'il nous reste du temps, on va parler un peu de petites brèves. Et bonjour Audrey, comment vas-tu?
Salut Matt, ça va? Écoute, nous sommes le 14 septembre et je pars en vacances après tout le monde, mais je pars demain. Donc je finis l'année, on va dire, l'année de travail avec cet épisode. Donc c'est cool et je suis contente de partager ce moment avec toi.
C'est cool.
Toi, tu vas bien?
Oui, ben oui, écoute, ça va bien. On a eu un bel été. L'automne vient d'arriver très... Ça, c'est mon bout météo que j'aime bien faire dans tous les podcasts. on a eu un automne qui est arrivé en pleine vitesse. On était à du 40 degrés en moyenne, et puis d'un seul coup, pouf, 7 degrés et 5 degrés. Ça fait un gros changement.
OK, ben écoute, aujourd'hui, chez nous, il fait super beau. Limite chaud pour mi-septembre, donc... La planète va bien, écoute, on n'a pas à s'inquiéter.
Il n'y a pas de changement bizarroïde des fois qui se produisent, hein. Tout va bien. Audrey, tu as ramassé un commentaire parce que on a un podcast et ce qu'on aime bien dans les podcasts pour faire ressortir l'émission, c'est que les auditeurs qui aiment l'émission aillent nous mettre des 5 étoiles et des commentaires pour nous aider à nous faire paraître un peu plus haut dans les catégories de podcasts. Et tu en as ramené un qui vient d'être fraîchement écrit.
Alors, fraîchement écrit le 17 juin, en effet, donc c'est TheMogwai91 qui nous dit « Une autre vision de la technologie, centrée sur l'utilisation plutôt que sur la technique, et j'adore les petits encarts sur l'écologie. Pour reprendre l'expression de Matt, c'est vraiment chouette. » Merci pour ce commentaire, ça fait plaisir.
C'est un commentaire vraiment chouette, on aime ça. On va commencer tout de suite l'émission, qu'est-ce que t'en dis Audrey?
Allons-y.
Alors, on va commencer évidemment avec la keynote de l'automne, la keynote qui annonce... Généralement, les gros produits phares de la marque. Et cette année, en termes de produits phares, ben on a été gâtés. Des nouveaux iPhones, ben comme d'habitude, un nouvel iPad, une nouvelle Watch, des nouveaux services. Audrey, est-ce que tu as suivi un peu la keynote?
Oui, je l'ai suivi tout du long. Hein. Ça a été assez rythmé. Une keynote, après pas vraiment très surprenante. Il y avait beaucoup de choses qui étaient déjà sorties dans les rumeurs, même si je les évite, c'était compliqué de les éviter tellement tout le monde en parlait, quoi. Mais des dates en fait de disponibilité, donc ça c'est cool pour les services, comme tu disais. Et puis oui, donc 3 nouveaux iPhones. Quand on pense qu'Apple en sortait un par an avant, maintenant c'est 3. Mmh. Ils avancent bien.
Ils avancent. Dis-moi, qu'est-ce qui t'a le plus marqué dans la keynote, toi?
Ah, bonne question. En fait, j'étais très contente parce que tu vois, moi, j'ai un iPhone XR. Ouais. Et l'an dernier, quand j'ai acheté ça, j'ai bien senti que beaucoup de gens me disaient « Ah ouais, mais toi, c'est ton métier, faut que tu prennes un XS Max. » Et en fait, pour moi, clairement, le XR répondait à mes besoins. Donc, j'étais très heureuse que le nouvel iPhone, donc le 11, soit un peu le remplaçant du XR. Mmh. Parce que clairement, c'est comme ça qu'il a été... Déjà au niveau d'autonomie qu'il a été présenté, et puis je pense que vu les couleurs et tout, enfin on voit bien que c'est son descendant. Et donc je me suis dit c'est une belle petite revanche pour le 10R qui était un peu mal vu, un peu ouais c'est une nouvelle iPhone 5C, un peu l'iPhone de sous gamme quoi.
Ouais, bas de gamme, ouais, je comprends.
Ouais voilà, alors qu'en fait pas du tout, ça fait un an que je l'ai, je ne vais pas changer parce que je suis toujours autant ravie de cet iPhone, et en plus il était vraiment plus abordable, et le 11 est également plus abordable que la gamme Pro maintenant. Mmh, mmh. Donc j'étais contente pour ça.
Ouais, effectivement. Et dis-moi, est-ce que tu as regardé tous les nouveaux services Apple Arcade, Apple TV+, est-ce que c'est des choses qui t'allument, ou t'es pas trop branché écran ou divertissement en arrière d'un écran, toi?
Apple TV+, c'est ça? Oui,
oui c'est ça, oui.
Écoute, en plus, ils annoncent c'est $5 par mois. Mm-hmm. Donc, je pense que je vais essayer. De toute façon, après, je sais pas en France ce que ça va donner par rapport aux États-Unis, parce qu'ils ont beaucoup de programmes, des shows et tout ça qui sont, je pense, qui seront pour les Américains ou du moins sous-titrés, j'espère, pour les autres pays. Mais ouais, et puis ben si Apple Arcade, ben j'attends de voir un peu ce qu'ils proposent. Après c'est vrai que j'ai une Switch, donc j'ai déjà pas assez de temps. Enfin, j'ai du mal à me dégager du temps pour jouer, donc si en plus j'ai Apple Arcade, ça va me frustrer encore plus. Parce que je vais me dire ah mais j'ai tout ça et j'ai pas le temps. Et... Bon après c'est pas que j'ai pas le temps, c'est que disons que je préfère passer du temps à autre chose. On choisit toujours ce qu'on fait de son temps, mais ouais. Et toi, Apple Arcade, je pense que ça te... Quel est le service qui t'intéresse le plus alors?
Bah alors c'est ça. Il y a eu deux annonces de services, en fait deux dates de sortie des services. Le premier c'est Apple Arcade. Apple Arcade, qu'est-ce que c'est? C'est l'accessibilité à une centaine de jeux illimités avec un forfait par mois. Alors c'est typiquement le Netflix du jeu sur iPhone, sur iPad. Vous payez un forfait de 4,99, 5,99 au Canada et en Europe, je pense que ça tourne aux alentours de 5,99€ aussi avec les taxes, si je ne m'abuse. Et ouais, ben, ce qu'ils ont annoncé, c'est un mois d'accès gratuit. Alors, vous pourrez l'essayer gratuitement, un peu comme quand ils ont sorti Apple Music. On avait eu un 3 mois gratuit pour l'essayer. Quand ils ont sorti Apple News, on avait eu un mois aussi d'essai. Là, ça va être à peu près la même chose. Vous allez pouvoir l'essayer. Ce qui est intéressant, je trouve, dans les nouveaux services qu'ont été annoncés par Apple, c'est si vous avez... activer le partage familial, eh ben tous ceux qui sont dans votre partage familial auront accès à Apple Arcade, à des jeux comme ça. Alors les jeux sont effectivement disponibles sur tablette, sur iPad et vont être aussi disponibles sur TV, à Apple Télé. Je sais pas si ça va être sur macOS. Est-ce que t'es au courant pour Apple Arcade?
Je suis en train de me poser la question. Il me semble que si avec Catalina. Enfin, je pense qu'il faudra Catalina. Je sais plus. Il faudra qu'on vérifie ça.
Ouais, effectivement. Pour ce qui est de Apple Télé Plus, des productions faites par Apple, il y en aura pas beaucoup au début. C'est assez limité. C'est pas une centaine de productions, mais ça tourne autour d'une vingtaine de productions originales d'Apple. Encore là, vous allez avoir un mois gratuit pour l'essayer. Forfait à 4,99 aux États-Unis, 5,99 au Canada, je pense que c'est aux alentours aussi en Europe, et si vous achetez un produit Apple à partir de maintenant, soit un iPhone, un iPad ou un Mac ou quoi que ce soit, vous aurez un an complet du service d'Apple TV+. Moi, j'ai trouvé ça assez renversant, je dois dire, c'est une super belle offre en tout cas.
Ouais, c'est sûr. C'est vraiment bien d'offrir ça. Après, c'est sûr que tu vois, enfin, je sais pas toi, mais moi, par exemple, je suis abonné à Netflix depuis qu'ils sont en France.
Ouais.
Et c'est clair que même si je pars un mois ou je le regarde pas pendant un mois, je vais pas forcément penser à me désabonner. Donc, je pense quand t'es habitué à avoir un service dans ton quotidien, donc clairement là, offrir un service pendant un an, ben au final, ça devient une habitude, quoi. C'est quelque chose qui est acquis pour toi. Donc, c'est vraiment un bon moyen de fidéliser des nouveaux clients. Ouais, je trouve que c'est sympa de la part d'Apple. Ils faisaient ça à une époque quand on achetait, quand il y avait la suite iWork.
Ouais, c'est vrai.
Donc c'était la suite qui faisait, qui réunissait Pages, Keynote et Numbers. Ils offraient cette suite-là quand t'achetais un nouvel appareil. Puisqu'à l'époque c'était, je sais plus.
Trentaine de dollars, je pense. Ouais,
c'est ça, 10 dollars le logiciel, quoi. Donc c'est sympa en fait, comme c'est un geste commercial qui est assez sympa. Tiens, je viens de vérifier, donc Apple Arcade, oui, ça sera sur Mac aussi.
Alors bah c'est ça, ça veut dire que c'est dans toutes les plateformes Apple, ce qui veut dire que bah typiquement si on commence à jouer une partie sur son iPhone, qu'on va sur son iPad, on peut continuer la partie. J'imagine que ça va être la même chose pour Catalina et ainsi de suite. C'est vraiment cool que ça soit intégré à l'écosystème complet.
Mm-hmm. Ouais.
Au niveau des services, ben ça a été un peu les grosses annonces du début. J'ai remarqué que Tim Cook a bien spécifié que c'était la première fois que Jennifer Aniston allait être en télésérie avec The Morning Show. C'est la première fois que Jennifer Aniston va faire une télésérie depuis Friends. Et on sait que Friends, c'est le nerf de la guerre pour Netflix de garder cette licence-là. Alors, je sais pas s'ils en ont fait exprès de le spécifier. On nous a montré une nouvelle télésérie un peu fantastique, je pense, je dirais ça. Avec je m'en rappelle plus du nom de l'acteur là, qui fait Aquaman, mais ça avait l'air assez intéressant comme série. Et puis, c'est ça, ça a fait pas mal le tour de ce qu'on avait à dire pour les nouveaux services. On les avait déjà avancés, on les avait déjà annoncés. J'ai regretté un peu les choix des jeux qu'ils ont présentés lors de la keynote. je l'ai déjà dit dans une autre émission, je trouve ça curieux qu'ils aient choisi de présenter ces trois jeux-là. C'était vraiment des jeux... C'est correct, là, mais c'est pas des jeux exceptionnellement beaux graphiquement. Ils ont choisi de faire cette présentation-là avec trois jeux plutôt moches, moyens, alors que dans la liste des jeux qui sont annoncés et confirmés, il y avait des jeux vachement meilleurs que ça.
Ouais, j'ai pas trop... je me souviens d'avoir vu un jeu qui est déjà disponible, celui où tu traverses des routes et des rivières et tout ça, là où tu sautes. Bon, ça, c'est un jeu, on va dire, un peu basique, dont on connaît le visuel depuis pas mal de temps. Même si c'est un jeu marrant, bon, c'est vrai que c'était pas exceptionnel. Par contre, est-ce que tu peux me confirmer, il me semble qu'ils avaient dit aussi que les abonnements à Apple Arcade étaient valables pour toute la famille?
Oui, c'est effectivement ça, valable pour toute la famille. Avec les nouvelles versions de logiciels qui vont arriver sur l'Apple TV, vous allez pouvoir utiliser vos manettes de PlayStation et de Xbox, et je pense aussi sur iPad, vous allez pouvoir récupérer vos manettes. Alors, c'est vraiment quelque chose qui va bien s'intégrer à nos vies en ce moment. Ce que j'ai bien aimé aussi, c'est que, comme je disais, c'est partage familial, et... ils ont bien spécifié qu'il allait y avoir des productions de plus en plus qui vont arriver pour l'Apple TV+, et que Arcade, ça allait aussi changer dans le catalogue. Fait qu'on sait que ce qui va sortir là, ça risque de bouger ou au mieux d'augmenter. C'est ça qui est cool.
Ouais, je pense que ça va pas du tout rester quelque chose de fixe et qu'on va vraiment avoir des belles surprises à venir. Et puis, ben, comme on disait, c'est quand même... assez abordable. Après, c'est vrai que si on met tous les services bout à bout, ça fait un petit budget quand même mensuel, surtout si on est abonné à d'autres services comme Netflix ou Amazon Prime. Mais peut-être qu'un jour Apple fera un pack. Enfin, ils avaient fait ça pour. Alors comment ça s'appelait? Je crois que c'était MobileMe, l'ancêtre d'iCloud. En fait, on avait un pack avec tous les services pour je sais plus combien par mois, mais en tout cas, ils avaient regroupé quand même. Tous les services, c'est un tarif avantageux, donc je pense que là, ça sera certainement une option qu'ils vont proposer dans les mois à venir, peut-être dans un an, on verra ce que ça va donner, mais ça
un peu à l'image de d'Amazon. Ouais, excuse-moi, je pensais que t'avais arrêté. C'est un peu ce que tu dis, c'est un peu à l'image de Amazon. Quand vous êtes abonné à Amazon Prime, vous avez Amazon Prime, la livraison, vous avez la vidéo, vous avez la musique, vous avez toutes sortes de services, et c'est un package que vous payez complet. Je suis impatient de savoir si ça va arriver vraiment, ce que tu dis, Audrey, d'avoir un package, parce qu'effectivement, quand on parle de sauvegarde iCloud, moi, je paye une sauvegarde iCloud. J'ai arrêté mon abonnement sur Apple News, mais s'il y en a qui ont Apple News, s'il y en a qui ont tous les services, ça serait bien d'avoir une espèce de regroupement de services qui te fait en bout de ligne peut-être économiser. Ouais, je trouve que ce serait une bonne idée, effectivement.
Ouais, je pense que ça va venir. Ou peut-être qu'après, il y a des choses qui vont devenir gratuites aussi. Alors, peut-être pas forcément tout de suite, mais... par exemple, la synchronisation iCloud avec 5 gigaoctets, tu vois, c'est gratuit. Ouais. C'est sûr que c'est un petit stockage, mais ça permet aux gens de synchroniser déjà les choses basiques sans payer. Donc, ils partent quand même sur des petits prix. Après, bon, bien sûr, ils comparent à la concurrence avec Amazon Prime ou Netflix, mais je pense que vraiment le service pour eux, c'est vraiment rentrer de l'argent tous les mois. Ouais. De façon automatique, comme on avait connu le chiffre de ce que iCloud rapportait par mois à Apple, mais c'était des millions de dollars, enfin, donc en fait c'est plus vraiment de la fidélisation mensuelle avec des petites sommes, mais bon, mis bout à bout avec des millions de clients.
Effectivement. L'idée en arrière, c'est de diversifier les entrées d'argent, parce qu'on sait depuis quelques temps, c'était pas mal juste les entrées d'argent reposées sur les épaules du iPhone, et c'était un peu malsain dans un contexte où il y a un ralentissement des achats, où tu sais le marché est saturé. C'est vrai que d'arriver avec des nouveaux produits puis des nouveaux services, ça va diversifier les entrées d'argent pour Apple. Moi, je suis vraiment content au niveau d'Apple Arcade, parce que tu m'as posé la question et on va finir la boucle avec ça. Oui, je vais probablement le prendre, parce que je suis un petit peu dépassé des achats de jeux sur le App Store, parce qu'il y a toujours des achats in-app, il y a toujours des choses comme ça qu'il faut faire attention avec un enfant, et moi, je suis un peu tanné de c'est correct que les gens fassent de l'argent, mais c'est compliqué des fois.
Oui, ça peut vite revenir cher si t'as plusieurs enfants, que chacun veut acheter son... un sac de 100 pièces d'or pour c'est son ça. Jeu. Voilà, 2 euros, c'est que 2 euros, mais tu vois, à la fin du mois, bon, ouais. ça fait pas mal de sous. Donc là, oui, en fait, avec Apple Arcade, du coup, il n'y a pas d'achat intégré, parce qu'on paye et on a accès à tout, j'espère. Normalement, oui, mais... oui, je pense que ça va se passer comme ça.
Au niveau des services et des logiciels, on va boucler la boucle avec ça. Catalina annoncé pour octobre. Catalina, c'est le système d'exploitation qui fait marcher vos Mac, vos iMac et vos MacBook. Une petite mise en garde, je vous dirais, pour tout ce qui est Mac, iPad, pas iPad, mais Mac, iMac, MacBook. Vous pressez pas trop, surtout si vous êtes professionnel dans certains logiciels. Il y a des fois des logiciels qui fonctionnent pas avec la dernière génération de macOS. Alors faites très attention quand vous faites la mise à jour à Catalina ou en fait de votre Mac. Je sais que moi, en l'occurrence, des logiciels d'édition audio, il y en a beaucoup qui sont pas encore prêts pour la nouvelle version. Alors, vérifiez avec le fabricant ou les gens qui ont créé vos logiciels que vous utilisez un peu plus spécialisés avant de faire les mises à jour.
Oui, et d'autant plus que cette année, c'est une mise à jour même plus importante que les années précédentes, puisque Apple abandonne le support des applications qui étaient codées en 32 bits. Et donc là, ça sera que les applications 64 bits qui vont fonctionner. Donc il y aura forcément des vieux logiciels qui, par exemple, si vous utilisez des vieux logiciels qui n'ont pas été mis à jour depuis longtemps, ils ne fonctionneront pas sous macOS Catalina. Donc faut vraiment, il y a un site qui s'appelle, alors comment je vais te prononcer ça Roaring Apps, voilà, qui permet de qui nous dit en fait, il peut scanner notre ordi, il y a une petite appli à télécharger, il scanne les applications qu'on a dans notre ordi et il nous dit celle-là elle marchera, celle-là elle marchera pas. Donc là ils sont en train de la finaliser pour Catalina, donc on la mettra dans les notes de l'émission.
Ouais.
Mais je vous conseille vraiment de l'installer, c'est une application gratuite et du coup vous saurez tout de suite si toutes vos applis marchent et surtout aussi si vous avez des vieilles imprimantes ou des vieux scanners et tout, si les pilotes
sont
sous Catalina. Parce que ça, c'est vraiment le truc auquel on pense pas trop. Et puis, devoir changer d'imprimante parce qu'on a mis à jour son Mac, c'est pas toujours une bonne nouvelle.
Effectivement. Alors, vous serez mis en garde. On va switcher tout de suite avec les autres annonces qui ont passé. On va aller vite. Apple Watch, une nouvelle Apple Watch qui a été annoncée. Pas une très grande révolution, l'Apple Watch série 5, où la grosse nouveauté, en fait, c'est que l'écran sera toujours allumé grâce à l'ingénierie qui fait qu'on allume certaines pixels et que le design change un peu et qu'on allume certaines pixels, ce qui fait que ça consomme beaucoup moins de batterie. On a confirmé que l'Apple Watch série 3 allait rester. Elle commence maintenant à $199, $250 canadiens. Je pense à peu près même en euros. Belle montre d'entrée de gamme et l'Apple Watch série 4 disparaît. Alors, c'est le moment de faire les magasins. S'il y a des Apple Watch série 4 pas trop chers, jetez-vous dessus parce que dans le fond, il n'y a pas vraiment une grosse différence avec la 5 et elle est franchement chouette au niveau de la santé, au niveau des ECG pour ceux qui ont ces problématiques-là au niveau de la santé du cœur et de la santé auditive. Il y a plein de trucs qui sont cool à partir de la série 5, mais si vous voulez commencer dans l'Apple Watch, moi je recommande l'Apple Watch série 3. Si vous connaissez pas et que vous voulez pas trop investir là-dedans, la série 3 est vraiment le bon deal de l'automne, je trouve, pour les Apple Watch, pour ceux qui font attention à leur portefeuille. Toi, Audrey, qu'est-ce que t'en penses?
Mais j'en pense que je n'ai toujours pas d'Apple Watch. je me pose vraiment la question. Enfin, franchement, régulièrement, ça me revient. Je me dis, est-ce que j'en ai besoin ou pas? Et puis, franchement, à part pour la natation, comme je te disais, ça serait sympa pour compter mes longueurs. Mais bon, j'utilise ma tête, donc ça va, c'est pas trop... après, je sais pas. Je trouve que l'Apple Watch série 5 évolue vraiment dans le bon sens. Et que de toute façon, ça va devenir de plus en plus comme un médecin de poche, quoi. En fait, on aura, c'est vraiment un appareil lié à la santé de la personne et ça sauve des vies. Donc, c'est sûr que moi, j'ai des clients, par exemple, qui ont plus de 70 ans, enfin, des clients retraités et ils sont hyper rassurés de se dire que dans leur Apple Watch, il y a un système anti-chute, ça peut envoyer un message si quelqu'un a fait une chute.
Ouais, exact.
Il y a tout le support, en effet, auditif. Enfin, il y a pas mal de choses. Enfin, tout est lié à la santé, quoi. C'est vraiment l'outil d'Apple lié à la santé.
Ouais, ouais.
Toi, t'en as une, toi?
Oui, ben c'est ça. Ma copine avait la série 1. On l'a changée dès que la série 4 est arrivée parce qu'elle a des antécédents au niveau du cœur. Alors, on trouvait ça cool de l'avoir. Elle est franchement chouette. Elle est vraiment belle, la série 4 et 5, là, parce qu'ils ont à peu près les mêmes cadrans. Je pense que la série 5 est pas encore en vente, mais ce que j'ai vu un peu en boutique. Moi, j'ai la série 3. Je suis vraiment très, très satisfait. Et ben la batterie, pour vrai, tient très bien 2 jours. Moi, je la porte pas la nuit. Je n'ai jamais porté une montre la nuit, de toute façon, que ce soit une watch ou n'importe lesquelles. Et non, je suis vraiment très, très satisfait. Et pour ce qui est... Il y a des subtilités intéressantes dans l'Apple Watch pour la motivation de plein de trucs. Exemple, j'aime bien l'application Respirer qui me permet de relaxer. Tu sais, des fois, on a des journées un petit peu qui bougent beaucoup. Et moi, l'application Respirer, j'aime bien l'utiliser. Et ben la watch... m'avertit quand elle voit que je peux le faire. La watch me dit aussi, ben là, il serait peut-être temps de te bouger le cul un petit peu, hein? T'es assis depuis trop longtemps, faudrait que tu te lèves. Y a plein d'avantages pour au niveau de la santé.
Ouais, c'est vrai que le coup de la respiration, du petit exercice de respiration, je l'ai vu ben chez une cliente aussi qui était hyper speed. Je sais pas si c'est ma venue ou quoi qui... c'est quelqu'un de stressé, et en fait, sa montre, à plusieurs reprises, lui a indiqué qu'il fallait qu'elle se calme, parce que du coup, comme il y a un suivi cardiaque, je pense que les battements de son cœur étaient trop rapides, donc ça, plusieurs fois, ça lui a signalé qu'il fallait qu'elle se détende, quoi. Donc c'est vrai que c'est un petit, comme une petite fée, là, qu'on a sur l'épaule et qui nous dit attention.
Et tu mentionnais tantôt les longueurs. Je sais que tu fais de la natation en mer. Même si les watches peuvent aller dans l'eau, c'est complètement à proscrire de la mettre dans l'eau salée. Hein. Faites attention si vous en avez une.
Ouais, on aurait peut-être dû donner ce conseil-là en juin. Bon, enfin, je pense que les gens quand même qui achètent une watch lisent au moins la notice ou les caractéristiques techniques. C'est une très bonne habitude à prendre.
Ce qu'ils ont annoncé aussi avec la watch, c'est qu'Apple allait se lancer dans des recherches sur la santé, des recherches sur l'audition, des recherches sur la santé des femmes et sur le cœur, en fait. 3 grosses recherches avec pas des petits débutants dans le niveau de la recherche. On parle d'Harvard, on parle de l'Université du Michigan. Franchement, ils ont compris, je pense qu'ils avaient pas à comprendre, mais ils s'en vont vers une tendance santé qui, en 2019, est le cœur du sujet, je trouve, parce que, ben, on a beaucoup de... En Occident, en tout cas, je vais parler pour le Canada, on a un vieillissement de la population assez incroyable. Ben, tous ces aspects-là sont quand même importants. Et, ben, comme tu disais, tu as des personnes à la retraite, toi, et, ben, c'est sûr que c'est plus rassurant d'avoir quelque chose qui peut t'aider ou envoyer des alertes ou quant à ça au poignet.
Appeler les secours, ouais. Ouais. Non, c'est un très bon produit. Et puis, il y a beaucoup de gens aussi pour... Mais moi, je sais qu'il faudrait que j'en ai une, parce que... parce qu'il faudrait que je bouge plus, pareil. Enfin, voilà, forcément, on a tous des vies un peu sédentaires quand on travaille devant un ordinateur. Mais bon, peut-être un jour.
2 petites nouvelles par rapport à la Watch. C'est que maintenant, vous allez avoir Apple Watch Studio, je pense. C'est comme ça que ça s'appelle. Ouais, c'est ça, Apple Watch Studio. Qu'est-ce que ça va faire, Apple Watch Studio? C'est que vous allez pouvoir aller en boutique si vous avez la chance d'avoir un Apple Store pas très loin de chez vous. Et vous allez pouvoir faire des combinaisons de cadrans avec les bracelets en fait, payer le prix que ça coûte. On sait que quand on achète une Watch, présentement, on a le bracelet généralement en silicone pour l'entrée de gamme. Là, on va parler comme ça, ou en velcro, et vous n'avez pas vraiment beaucoup de choix. Si vous allez en magasin, vous allez pouvoir faire toutes sortes de combinaisons avec une application, et quand vous allez l'acheter, vous allez acheter exactement la combinaison que vous avez souhaité, que vous avez personnalisée, et Apple parle de 1000 combinaisons possibles pour l'Apple Watch. Alors, je trouve ça chouette. Et, dernière annonce par rapport à l'Apple Watch, c'est que ça peut paraître anodin, mais moi, je pense que c'est un... Ça dessine quelque chose, c'est que le fil de recharge de l'Apple Watch est en USB-C maintenant, est disponible en USB-C. Alors, pour tous ceux qui ont des MacBooks ou qui ont des iPads avec l'USB-C, ben vous allez pouvoir recharger votre Watch. Et ben peut-être qu'un jour, le iPhone ou iPhone Pro sera en USB-C. Parlant matériel, on fait un petit tour sur l'iPad, un nouvel iPad qui a été annoncé. Qu'y a-t-il de nouveau? Ouais. Qu'y a-t-il de nouveau, Audrey, dans cet iPad-là?
Alors, c'est un iPad. Alors, c'est bien parce que, tu vois, j'ai compté, on est à 47 modèles d'iPad. Quand j'avais fait mon dossier sur l'iPad, c'est pour ça que j'en avais autant bavé. Donc voilà, un nouvel iPad qui a un écran de 10,2 pouces. Mm-hmm. Donc les 9,7 pouces sont mis, c'est terminé. C'est un modèle qui est vraiment, c'est l'entrée de gamme. Donc il commence à 329 $. Mm-hmm. En fait, donc c'était cool quand ils nous l'ont présenté. Puis le lendemain, ou le surlendemain, en fait... On s'est rendu compte qu'il avait le même processeur que le modèle de l'année dernière. Mm-hmm. Donc, c'est un processeur A10. Mm-hmm. Donc, en gros, les gens qui ont acheté l'iPad 6, l'iPad de 6e génération, ben, vous pouvez vraiment le garder parce qu'hormis un écran plus grand, et je crois quand même, est-ce qu'il est de meilleure qualité ou pas? Je sais plus exactement, mais en tout cas, on a été surpris qu'Apple mette pas un processeur A11 dedans. Et par contre, il a le Smart Connector, qui permet de d'y connecter un clavier, un Smart Keyboard. Donc, il est un peu bizarre cet iPad.
Ouais, c'est ça. Franchement. C'est comme tu dis, hein, ceux qui ont acheté la version 5, je pense, qui était avec le processeur A10, ben, vous êtes contents, vous venez de gagner 5 nouvelles années, parce que le nouveau iPad qui vient de sortir, c'est un processeur A10 aussi. Ce qui veut dire, en tout cas, ce qui peut laisser présager que vous allez garder.
C'est la version 6.
Ouais, assez, ah, ok, c'est bon.
Ouais, qu'on a acheté d'ailleurs cette année pour la maison ici, et oui, c'était un processeur A10 déjà. Donc en fait, peut-être que c'est un modèle qui répond à des besoins peut-être éducatifs pour les écoles, parce qu'il est compatible avec le... Par contre, c'est toujours l'Apple Pencil de première génération.
Ah, ok, ok.
Donc, en fait, c'est ça, c'est-à-dire qu'ils sortent maintenant, alors c'est celui qui aurait dû sortir l'an dernier, quoi.
Mm-hmm. Ouais, ouais, en fait. Effectivement. Effectivement.
Un peu bizarre.
Moi, quand on me demande mon avis par rapport au iPad, je recommande... en fait, ça dépend, là. Ça dépend de la personne, là. Mais si une personne veut faire beaucoup d'utilisation d'un iPad, je recommande pas nécessairement le Pro. L'iPad Air est très bon, est un très bon produit avec un meilleur processeur que le nouvel iPad et un écran un peu plus grand et une meilleure batterie. Alors c'est à considérer aussi. L'iPad Air de dernière génération versus le nouvel iPad. Moi, j'ai tendance à conseiller le Air pour un petit peu plus d'argent, mais beaucoup plus d'argent, mais on tombe pas tout de suite dans le Pro. Hein. Tu vois, c'est comme l'entre-deux, je trouve.
Oui, c'est ça. En fait, c'est très bien vraiment qu'ils fassent une entrée de gamme quand même, un iPad pour 330 $. Enfin, ouais. C'est quand même, ça remplace l'ordinateur chez quand même pas mal de monde. Ouais. Donc c'est vraiment bien. Les gens qui font du mail, de l'internet, qui gèrent leurs photos, qui font des petits jeux et tout, ils ont pas besoin de la puissance d'un iPad Air ou d'un iPad Pro, hein, clairement. Donc c'est vraiment bien qu'il y ait cette entrée de gamme. Par contre, oui, on a trouvé ça un peu radin de sortir avec le processeur de l'an dernier. Et d'ailleurs, il y a aussi l'histoire du capteur d'empreinte Touch ID qui est de première génération.
Ah, ok.
Donc, qui est même apparemment moins bien que... Enfin, j'ai pas vérifié, mais c'est un de nos fidèles lecteurs... un de nos fidèles auditeurs, Marcos, qui m'avait dit ça, qui avait signalé ça sur Twitter en disant que c'était un capteur Touch ID de première génération. Donc, là encore, on se pose des questions... Sur cet iPad.
Mais vous pouvez acheter ça les yeux fermés si vous avez jamais eu aucun produit Apple et que vous avez pas beaucoup, vous êtes peut-être craintif. Je dirais que c'est peut-être le produit à regarder en premier. Puis dites-vous aussi que vous allez avoir un an gratuit d'Apple TV+. Alors c'est chouette.
Et ouais.
On switch, on avance vers le cœur de la conférence où on a parlé longtemps d'appareils photo et on n'a pas parlé longtemps d'appareils photo, on a parlé d'un téléphone, iPhone 11, l'iPhone 11 Pro et l'iPhone 11 Pro Max qui sont des nouveaux téléphones phares de la compagnie. Comme tu disais, Audrey, c'est chouette de voir que maintenant le XR qui devient le 11 est le iPhone de base. Et que si on a une utilisation un peu plus professionnelle, on peut aller vers du Pro ou du Pro Max. J'aimerais quand même juste comprendre, c'est quoi une utilisation professionnelle d'un iPhone qu'on peut faire, là, à part la photo. J'arrive pas à comprendre trop ça, mais peut-être.
Non, franchement, c'est un terme marketing, c'est tout, quoi. Ouais. Parce que clairement, y a plein de pros qui utilisent des iPhone 7, 6, 10R, En fait, c'est pas le modèle qui détermine ce que tu fais avec, c'est juste ton usage, quoi.
Ouais.
Donc, je pense que c'est purement marketing. C'est peut-être aussi pour guider la clientèle. Y a plein de gens qui s'y connaissent pas trop, qui vont dire, bah non, je suis pas un pro, donc je vais prendre le 11. Donc, ils vont aussi écouler du 11. Après, il y a quand même les geeks ou les gens qui ont les moyens, tout simplement, qui vont se faire plaisir en achetant la gamme pro. Ouais. Mais je pense que, enfin, quand tu compares techniquement, alors ça c'est hyper intéressant sur le site d'Apple. Il y a un outil pour comparer les modèles. Quand vous cliquez sur iPhone, tout en haut, vous avez comparé les iPhones et vous pouvez donc choisir, par exemple, de comparer l'iPhone 11 et le 11 Pro. Et franchement, à part la caméra, enfin la triple caméra sur les 11 Pro comparé à trois objectifs comparés à deux sur le 11. Il n'y a pas énormément de différence, si ce n'est l'écran qui est toujours LCD sur le 11 et en quoi déjà ? C'est quoi sur les 11 Pro ?
C'est du LCD. Ah, c'est du OLED.
Oui, voilà, c'est ça, pardon. Mmh. Donc, en fait, on a la même différence qu'entre le 10R et puis les 10S qu'il y a eu l'an dernier, quoi.
Ouais.
L'appareil photo et l'écran.
Alors, est-ce que tu peux nous décrire un petit peu au niveau technique, c'est quoi les différences? Tu l'as dit un peu, mais il y a des couleurs, il y a plus de couleurs dans un, moins dans l'autre, c'est ça?
Ouais, l'iPhone 11 est disponible en... Alors, j'ai les couleurs là, mauve, jaune, toujours le jaune, vert, mais c'est un vert très très pâle, noir... rouge donc pour la version Product Red et puis blanc. Par contre, les iPhone Pro sont disponibles en vert nuit, donc apparemment c'est une très belle couleur pour ceux qui l'ont vu.
Ouais.
C'est presque du gris qui tire un peu sur le vert, c'est vraiment ça a l'air d'être une très belle couleur. Il y a argent, gris sidéral et or.
Alors, on comprend que le Pro ont des noms de couleurs, eux. Ils ont du gris sidéral, ils ont du vert nocturne, ouais. Mais les autres, c'est du vert, c'est du blanc, c'est du noir.
écoute, ça, franchement, il faut bien différencier la gamme et puis justifier la différence de prix, quand même.
Effectivement. Alors, ça vient avec, évidemment, des meilleurs capteurs photos, ça vient avec des nouvelles fonctionnalités au niveau des pros, ça vient avec, évidemment, ça m'en prend un parce que je vais faire des meilleures photos, je pense, Audrey, hein, c'est ça? Il faut que j'en achète un nouveau pour les meilleures photos.
Eh ben non, pas forcément. En fait, je vois beaucoup de gens sur Internet et même parmi mes clients. Enfin, je suis beaucoup de groupes sur Facebook de passionnés d'Apple et en fait, il y a quand même une légende urbaine qui veut que si les gens achètent un appareil photo, que ce soit un iPhone ou vraiment un réflexe, un appareil photo classique, plus l'appareil va être cher, meilleures seront les photos. Non. Parce que il vaut mieux que vous passiez une heure de votre vie à regarder des tutos vidéo, à prendre un cours avec un photographe qui va vous expliquer comment on fait une mise au point, comment on cadre, comment on met un horizon droit ou comment on fait si on veut faire de la macro ou des choses comme ça. On peut faire plein de trucs maintenant avec l'iPhone. On peut faire du grand angle, du très grand angle. Mais en gros, si vous n'avez pas des bases de prise de vue, même si vous avez l'appareil photo et l'iPhone le plus cher, vos photos, je suis désolée de le dire, mais elles seront moches. Ça y est, je l'ai dit. Tu partages peut-être pas cet avis, mais moi je trouve que ça dommage que les gens ils ont des super, enfin les iPhones quand même ils sont très bien équipés au niveau photographie, et puis il manque pas grand chose parfois, juste pour qu'une photo soit plus belle qu'une autre. Et franchement voilà, passez une heure à regarder des tutos en ligne et puis apprenez à faire des photos et de la prise de vue, et vous allez voir, ça va tout changer. C'est-à-dire que vous allez pouvoir faire des photos très belles, même si vous avez un iPhone 6, un iPhone 7. Après, il y a des technologies, moi je le vois bien avec mon 10R, il y a des technologies comme le Smart HDR, j'avais fait une vidéo là-dessus, qui permettent vraiment d'avoir une luminosité assez exceptionnelle. Donc ça, c'est sûr que c'est un aspect technique qui était disponible l'an dernier qu'à partir du 10R. Mais comme je te disais avant qu'on enregistre, moi j'ai eu quasiment tous les iPhones depuis le 4, et à chaque fois les gens me disaient « Oh là là, mais toi avec ton iPhone 6, tu fais des super belles photos, et bon, je suis pas photographe, mais j'aime bien faire des photos. » Et souvent je disais aux gens « Mais tiens, prends-le ou fais des photos pour voir. » Et en fait, les gens se rendaient bien compte que c'est pas que l'appareil qui compte. c'est aussi bah, le photographe, quoi. Enfin, la ouais. personne qui prend la photo.
Ah ouais. Bah, il y a le sujet, il y a l'éclairage, il y a plein de trucs, hein,
ouais, là-dedans. Ouais, savoir gérer la lumière. Enfin, il y a plein de choses, en fait. Hier soir, justement, je suis allée me promener à Saint-Malo et j'ai fait des photos de nuit avec mon 10R, justement, pour voir ce que ça donnait par rapport ouais. au mode nuit, qui est une nouvelle fonctionnalité sur les ouais. nouveaux iPhones. Mmh. Et en fait, mon 10R s'en sort pas trop mal. J'ai posté une photo sur Twitter et il y a plein de gens qui m'ont dit, bah, comment t'as fait pour faire ça avec ton 10R et tout. Et en fait, c'est juste bah, des petites techniques de prise de vue qui font qu'on arrive quand même à avoir de beaux résultats.
Ouais, effectivement. Moi, je suis un petit peu... je suis partiellement d'accord avec ce que tu dis pour cette génération-là. Mais je vais réserver mon partiel quand on va voir les premiers tests. Parce que ce qui pêche un petit peu chez Apple, c'est vraiment les photos de nuit si on se compare au haut de gamme de chez Google ou au haut de gamme de chez Samsung. Et cette année, on a vraiment... En tout cas, j'ai vraiment espoir que... on a des belles photos de nuit et c'est ça que je vais voir. Mais ça, je vais le voir seulement avec les tests. Pour l'instant, ce qu'on voit dans les présentations, ça a l'air beau, mais est-ce que ça va être ça?
Oui, c'est ça. En fait, si tu veux, si tu fais le chemin arrière depuis toutes ces années qu'ils nous présentent des iPhones, les iPhones font toujours des photos de plus en plus belles.
Oui.
Sauf que les photos qu'ils nous montrent pendant les keynotes, c'est des photographes professionnels qui les font.
Oui, effectivement.
C'est des photos qui sont retouchées, t'as des ajouts de lumière, enfin, c'est pas du brut de capteur, quoi. C'est quand même de la photo qui est utilisée pour des présentations. Donc forcément, déjà, le gars qui est derrière l'appareil, c'est un bon. Et puis, il y a tout l'aspect retouche derrière. Donc là, c'est vrai que du coup, ils ont rattrapé leur retard puisqu'ils proposent le mode nuit sur toute la gamme, la nouvelle gamme. Puisque ça, ils ont été pas mal charriés avec, comme tu disais, c'était le P30 ou je sais plus quel téléphone avait un mode nuit très efficace. Mm-hmm. Donc là, forcément, voilà, ils ont rattrapé leur retard, ils sont à égalité, j'espère, avec les autres. Et après, bien sûr qu'il y a la technique. Là, c'est sûr qu'avec trois objectifs sur un seul iPhone, il va y avoir des possibilités beaucoup plus importantes qu'avec deux objectifs ou avec un seul. Mais ça n'empêche que, moi j'ai envie de dire, les petites bases de prise de vue... sont vraiment je le sais parce que c'est un des cours que je donne avec mes clients.
Mmh.
Et je les emmène en balade pendant une heure et puis je leur donne plein de petits conseils, des petites astuces comme ça de prise de vue, et en fait ça change leur façon de prendre des photos et du coup ils sont hyper contents de leur téléphone, quoi, tu vois.
Ouais, effectivement, et c'est vrai ce que tu dis. Je suis en train de regarder ton feed Twitter, tes photos que t'as fait, et c'est des photos qu'on pourrait facilement mettre sur la page du iPhone 11 Pro et en disant qu'il est vraiment meilleur. Alors ouais, effectivement, j'ai hâte de voir les vrais tests par les
vrais gens.
ouais, carrément. Ouais. Je vais peut-être être complètement d'accord. Pour le moment, je suis juste partiellement d'accord. Alors on va voir les tests qui vont arriver.
Donc, juste pour finir là-dessus, je renie pas du tout le fait que plus la technique avance, on va dire que moins la gestion humaine a d'importance, parce qu'en fait, l'appareil, c'est lui qui va... On disait, par exemple, le Smart HDR, c'est quand même un HDR intelligent. Donc, ouais. C'est lui qui va décider s'il se déclenche ou pas. Donc, forcément, il y a toute la partie intelligence artificielle, entre guillemets, qui fait que les photos qu'on prend sont plus belles.
Mmh.
Mais heureusement, on a encore une part de je veux dire, il y a des photographes sur Instagram qui ont des millions d'abonnés, et puis quand tu vois qu'ils ont un iPhone 6, et ils font des photos, mais magnifiques.
Ouais.
Et en fait, c'est juste qu'ils profitent du rayon de soleil qui passe, de la dame qui passe, qui a une allure un peu bizarre, ça fait une super photo, enfin. Voilà. Après, il y a vraiment l'œil du photographe qui rentre en compte. Mais ça n'empêche que la technique fait que les photos seront forcément plus belles d'année en année sur les iPhones.
Écoute, à suivre avec les premiers tests qui vont arriver. Deux trucs que j'aimerais juste ressortir par rapport aux nouveautés des iPhones. On a parlé un peu plus d'autonomie. Ils sont beaucoup plus véloces en termes d'autonomie batterie. Je pense que le Pro Max, c'est jusqu'à 5 heures d'autonomie de plus. Le Pro normal, c'est 4 heures. Et le 11 a 1 heure de plus que le XR, qui, ton téléphone que tu as, est quand même assez autonome. Il y a une belle autonomie, je pense. T'es assez satisfaite de ça, toi?
Ben ouais, franchement, j'ai été... c'est l'iPhone le plus endurant que j'ai eu.
Mmh.
Là, ça fait un an que je l'ai, et je suis toujours quasiment à 2 jours d'autonomie. Après, je fais pas de jeu dessus. Donc ça, c'est sûr que j'ai pas des applications très gourmandes. Mais clairement, j'oublie parfois qu'il faut le recharger, quoi. On en a déjà parlé. Donc ouais. Là, si le 11 a 1 heure de plus, ben c'est toujours ça de prix. Et puis, oui, les pros ont 4 et 5 heures de plus que les 10S. Donc, c'est cool. Ah, et d'ailleurs, il y a un chargeur... t'avais noté ça ? Un chargeur pour la recharge rapide qui est maintenant oui. intégré dans les boîtes des, oui. Des 11 Pro.
Oui, effectivement. Alors, Apple est toujours très soucieux de la santé de la batterie, de la santé de la pile de ses téléphones. Et tant qu'une technologie est pas au point pour que cette technologie-là dure le temps de vie d'un téléphone, il la sort pas. Jusqu'à maintenant, la recharge rapide du iPhone était reliée ou reléguée en fait au chargeur des Mac et ceux qui avaient certains fils particuliers, mais ça a jamais été officialisé dans les boîtes des iPhones. Et là, vous allez pouvoir avoir un chargeur officiel pour iPhone 18 watts qui va faire de la recharge rapide à partir du USB-C vers Lightning. Alors encore une fois, comme le fil qu'on parlait pour la Watch, l'USB-C se démocratise de plus en plus chez Apple. L'USB-A, hein, vous savez, l'USB carré qu'on connaît, qu'on a tendance à inverser sans faire exprès et toujours, en fait, jamais rentrer du bon côté. L'USB-A est en train de disparaître au profit du C. Et oui, la recharge rapide arrive. Alors, moi, ça me rassure parce que quand Apple met ça en force, c'est qu'ils sont pas mal sûrs de la technologie. Alors, on sait que c'est habituellement la recharge rapide chauffe et c'est généralement mauvais pour les appareils avec une batterie quand ça chauffe. J'imagine qu'ils ont contrôlé tout ça et que ça va bien aller. On va pouvoir charger plus rapidement nos iPhones. Ça, c'est cool.
Ouais, après, tu sais, le chargeur, j'ai regardé, parce que le chargeur qui est fourni avec les nouveaux iPhone 11 Pro, donc c'est le chargeur 18 watts, et quand il est en vente, en fait, sur le site d'Apple depuis longtemps, il est en vente 25 ou 35 euros, je sais plus, mais en fait, il est compatible avec les iPhones à partir du 8. Donc, okay. En fait, c'est ça, est-ce qu'on se dit... Moi, j'avais la même réflexion que toi, je me disais, si un chargeur est vendu avec un appareil, c'est que ce chargeur-là va... chouchouter un peu la batterie, tu vois, tout au long de son utilisation. Mais quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais ce chargeur-là, il est en vente depuis plusieurs années. Donc, qu'est-ce qui justifie qu'il le mette maintenant dans la boîte et pas avant? Je sais pas. Est-ce que c'est le côté pro? Justement, vous avez un iPhone Pro, donc il va se recharger plus vite. Tu vois, est-ce que c'est aussi du marketing?
Ouais.
Ouais, tu vois, c'est ça que je me suis dit. Mais en tout cas, ce chargeur-là, si ça vous intéresse, par contre, il est vendu sans le câble. Donc, il faut acheter un câble USB-C vers Lightning ou USB vers... USB-C vers Lightning, ouais.
Alors, donc, ça quand on dit tout ça...
50 euros, je crois, le chargeur.
Ouais, effectivement.
On a été coupé.
Oh, désolé. Alors, quand on parle de nouveautés, des nouveaux iPhones, est-ce que toi, pour une personne qui n'a pas d'iPhone ou qui doit changer, typiquement une personne qui a un 5S ne pourra pas avoir iOS 13, la nouvelle version. Alors, ces personnes-là vont devoir changer si elles désirent avoir un appareil un peu plus sécuritaire, en fait, là, et au goût du jour avec le système d'exploitation. Toi, au jour d'aujourd'hui, maintenant, avec les annonces, quel iPhone recommanderais-tu pour quelqu'un qui veut commencer à avoir un iPhone et qui doit changer, qui avait un 5S?
Alors, Apple actuellement vend encore le 8, le 10R et donc les nouveaux, le 11 et le 11 Pro et le 11 Pro Max. Faut quand même dire que ce qui détermine l'achat d'un iPhone, c'est quand même son prix.
Ouais, hein.
Franchement, les gens sont quand même, j'ai tel budget, qu'est-ce que je peux avoir pour ça, quoi. Moi, c'est ce que je vois au quotidien. C'est pas, alors j'ai un budget illimité, qu'est-ce que je prends? Les gens qui me disent ça, ils achètent le 11 Pro Max et puis ils se posent pas de questions, quoi. Ouais. J'en ai aussi. Mais souvent, les gens, c'est quand même, je veux un iPhone pour 300 ou 400 euros, qu'est-ce que je prends? S'ils viennent d'un 5S qui passe par exemple sur un 8, même si je leur conseillerais le 10R, franchement, ouais. Rien que pour Face ID, pour tous les nouveaux gestes qu'il y a avec la disparition du bouton d'accueil. Franchement, moi j'ai conseillé à une dame il y a pas longtemps le 10R et elle est super contente. Elle a failli prendre le 8 et elle m'a dit non, en fait on sent qu'il y a quand même une évolution. Enfin, elle sent qu'en fait c'est toujours un iPhone mais en mieux, tu vois. Et c'est vraiment ce que moi j'ai ressenti quand je suis passée du 7 au 10R. Le fait de plus avoir ce bouton, d'utiliser Face ID, c'est quand même hyper confortable au quotidien, quoi. Donc je recommanderais le 10R si le budget est un peu juste, sinon le 11, quoi.
Ouais, effectivement. Écoute, on s'est pas parlé et j'ai tweeté sur internet mes recommandations pour des gens qui veulent l'entrée de gamme au niveau d'iPhone qui doivent changer et j'ai la même réflexion que toi. Le 10R est franchement un bon appareil pour commencer parce que la différence quand même entre le 10R et le 11 est 200$ chez nous, hein. C'est quand même beaucoup. On passe de 800$ pour un XR ici canadien à 1000$ pour un 11. Ça fait quand même une bonne différence quand même.
Ouais, je suis en train de regarder la différence de prix ici. Ben, en France, il y a que pour 64 gigas de stockage, il y a que 100€ de différence.
Ben ici il y a une bonne différence, je t'avoue, et moi la différence de prix, je vous conseille ben de l'investir peut-être dans un Apple Care Plus ici au Canada parce que vous allez pouvoir avoir une bonne garantie, un bon suivi de produit. C'est quand même intéressant d'avoir ça sur un téléphone qui ben un dos en verre qui peut être plus fragile quand même qu'un vieux Motorola en plastique qu'on flippe.
Et d'ailleurs, ça m'a vraiment étonné pendant la keynote. Ils ont montré une vidéo à la fin de la présentation du 11, où on voyait un iPhone, mais s'en prendre plein la figure toute la journée dans le sac à main, tomber entre les sièges de la voiture, tomber de la table. Enfin, et bizarrement, ils n'ont pas parlé de. J'ai pas vu d'infos sur. Est-ce qu'ils ont changé le verre à l'arrière, à l'avant, est-ce que tu as des infos là-dessus?
Alors, ce qu'ils ont dit dans la conférence, et c'est une phrase qui a passé très très vite, en anglais, ça voulait dire grosso modo, on a enfin corrigé et amélioré la résistance du verre. Et après ça, cette vidéo-là est apparue. Mais ils n'en ont pas dit plus. Moi, j'attends vraiment tous les tests. Tu vois, quand un nouveau téléphone sort, on a souvent des tests de chute après après une échelle.
Ça fait mal au cœur.
Ouais, effectivement. mais j'attends juste ces tests-là parce que j'ai franchement la sensation, comme toi, qu'il s'est passé quelque chose de différent avec les autres iPhones que cette année, avec le Pro, en fait, parce que la vidéo, elle montre vraiment le téléphone se faire brinque-baller dans une sacoche, dans un sac, se faire tomber par un chat. Il maltraite, hein, l'iPhone, c'est la première fois, je me rappelle pas avoir vu une vidéo, en fait, où on maltraitait autant le produit Apple dans une présentation de keynote.
Non, la seule fois où on voyait qu'il se faisait un peu malmener, c'est quand il allait sous l'eau, mais en fait, c'était pour nous montrer qu'il était étanche ou résistant à l'eau. Mm-hmm. Là, franchement, je me suis dit, mais ça y est, ils nous font un iPhone tout terrain, enfin, celui que j'attends depuis.
Ouais.
Tu vois, et si vraiment, tu vois, ça, c'est concluant. Si vraiment ils nous font un iPhone qui résiste aux chutes, où le verre se casse pas et tout, ça, c'est vraiment un argument qui fait que je conseillerais le 11.
Ouais.
À la place du 10R. Parce que clairement, moi, je flippe un peu quand même, quoi. J'ai quand même une coque, mais je me dis, si ça tombe, c'est 300€ ou plus de réparation, quoi. Voilà. Donc, si ça, c'est vraiment une nouveauté, c'est peut-être la surprise qu'ils nous ont pas annoncé. Je sais pas, ils en ont pas fait des caisses, mais si ça se trouve, c'est une bonne surprise quand même pour tout le monde.
Ouais, effectivement.
J'ai hâte.
Ouais, j'ai hâte d'essayer. Chose qu'ils nous ont pas annoncé et qui est dans les nouveaux iPhones, c'est la puce U1. La puce U1, c'est une puce qui devrait permettre, en fait, deux usages intéressants. D'après les rumeurs, on n'a pas encore pu tester. Le premier usage, c'est de pouvoir faire du airdrop dirigé. Quand on fait un airdrop à une personne, généralement, on doit attendre que l'airdrop s'affiche. On partage, exemple, une photo, on appuie sur airdrop. Là, on voit les personnes qui sont pas très loin du iPhone s'afficher. Mais avec la puce U1, vous allez pouvoir diriger votre iPhone vers la personne que vous voulez, avec qui vous voulez partager la photo. Et c'est seulement cette personne-là que vous allez voir. Ça devrait accélérer le airdrop, ça.
Ah ouais,
et,
cool.
Et la deuxième fonctionnalité qu'on attendait, en fait, c'est un espèce de petit appareil, petit porte-clés qu'on attendait, ce sera peut-être pour octobre, parce qu'il va y avoir une autre keynote, qui va vous permettre un porte-clés qui va vous permettre de relier ce porte-clés-là à votre iPhone et qui sera en mesure de vous dire si vous avez perdu, exemple, vos clés, où vous les avez perdues. Et si vous les avez perdues, ben embarquez la nouvelle technologie d'Apple fait que n'importe quel produit Apple qui va passer à côté de votre porte-clés va le relever et va l'envoyer à vous, en fait, à votre iPhone, à votre compte, pour vous dire « on a retrouvé tes clés ».
Oui, c'est ça. C'est pas juste l'iPhone qui capte dans la limite de ses possibilités les clés perdues grâce à ce petit objet. C'est comme si les iPhones se mettaient tous en réseau pour transmettre l'endroit où les clés sont perdues. Si j'ai bien compris.
Exactement. C'est tellement mieux expliqué quand c'est toi. C'est pas pour rien, c'est pas pour rien que tu fais des formations.
Non, mais en fait, je trouve ça hyper intéressant. Et du coup, je me suis même dit que, ben, en gros, les iPhones pourraient avoir leur réseau interne, quoi. Enfin, c'est un peu déjà le cas avec... Ah non, même pas. Ouais. Ah, c'est vraiment intéressant. J'ai hâte qu'ils développent ça et qu'on en sache un peu plus.
Effectivement. Ben moi, ce qui a couronné le tout dans toutes les présentations, c'est que ben on n'entendait plus la voix mythique de Johnny Ive qui présentait, tu sais, un espèce de ASMR en arrière, là, tous les produits, là, à quel point ils sont beaux et ainsi de suite.
Ah oui, avec sa voix chaleureuse.
Ça, c'est ce qu'on a pu parce que Johnny Ive est parti. On vous diffusera la capsule historique un peu plus tard. Toi, Audrey, est-ce qu'il y a d'autres choses qui t'ont marqué par rapport à cette keynote?
Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? Ben, je vais te dire qu'entre la keynote de septembre et celle d'octobre, qui parle plus du Mac, j'ai une petite préférence pour celle d'octobre. Mm-hmm. Là, je suis contente parce qu'en fait, ben, Apple tient le cap dans ses produits. Ça n'a pas été une keynote très... on n'a pas eu de frissons, on n'a pas été ouhou, ouais. Il n'y a pas eu d'effet waouh, mais... Franchement, je pense qu'il continue à avancer, alors que le marché, en effet, est un peu saturé. Il y a vraiment une concurrence assez rude. Et puis là, on a déjà vu, ben, parce que la keynote a eu lieu en début de semaine, là. On est samedi. Il y a déjà eu des tests avec le processeur A13, donc le nouveau processeur qui équipe les iPhones, où, il met KO, déjà la concurrence.
Effectivement. Voilà.
Donc en fait, Apple maintient le cap, mais de façon assez élevée.
Constante, ouais.
Donc c'est une course qui continue. Qu'est-ce qui t'a et toi?
Moi, ce qui m'a marqué, grosso modo, c'est je l'ai dit au fil du temps, on n'a plus Johnny Ive, on peut maintenant. J'ai remarqué qu'on se rapprochait un peu plus des gens en termes de personnalisation, en termes de couleurs. On n'a jamais eu autant de couleurs dans les produits, même dans les pros. Ça, j'ai trouvé ça cool. ce que j'ai remarqué après ça, c'est des petites informations, tu sais, qu'on n'a pas directement dans les keynotes. Aux États-Unis, on peut financer des iPhones. Ils en ont parlé un peu dans la keynote rapidement. On peut financer des iPhones mensuellement. C'est-à-dire que c'est un programme chez Apple qui permet à des gens d'avoir toujours la dernière génération d'iPhone en payant un forfaitaire mensuel. Et vous vous assurez que dès qu'il y a un nouveau iPhone qui sort, vous l'avez. Et dans votre forfait cellulaire, c'est juste le cellulaire que vous payez et non pas la subvention du téléphone. Et cette année, nouveauté qui est assez significative, l'Apple Care Plus se joint au groupe. Et si vous faites partie de ce programme-là, vous allez payer l'Apple Care Plus tout le temps. Historiquement, c'était vous payez l'Apple Care Plus, il est bon pour 2 ans, mais il n'était pas relié au programme de changer son iPhone à tous les ans. Là, l'Apple Care Plus devient aussi un service, une assurance qu'on paye à vie. Tout le temps qu'on a un téléphone Apple, vous allez pouvoir le faire aux États-Unis, payer son Apple Care Plus jusqu'à temps que l'appareil soit réparable. Alors, ça marche pour 2 trucs. Ça marche pour ceux qui sont sur le programme de remplacement d'iPhone, qui désirent remplacer les iPhones dès qu'il y a une nouvelle génération, mais aussi pour ceux qui prennent aux États-Unis le plan Apple Care Plus. L'Apple Care Plus sera une mensualité maintenant, ce sera plus un forfait qu'on paye à l'achat du téléphone et ou du produit Apple. Ça va être une mensualité, ça va être un autre produit en prix mensuel, moins cher qu'à l'achat initial, mais il sera tout le temps relié à votre produit tant que le produit sera réparable. Moi, ça, je trouve ça juste génial comme idée. Ouais, parce que, tu sais, une personne qui achète, je sais pas moi, un iPad, qui prend cette mensualité-là, cette assurance, dans le fond-là, est assurée qu'il va toujours être réparé, qu'il sera toujours réparable, et aussi, qu'elle va avoir du service au téléphone, hein, parce qu'Apple Care Plus, c'est pas juste la réparation, c'est aussi du support au téléphone quand t'as des problèmes, du soutien au téléphone avec des gens spécialisés dans le domaine. Ça, c'est cool.
Ouais, moi, je trouve que... c'est un peu ce qu'on a maintenant quand même avec les voitures qu'on loue et qu'on n'achète plus et qu'on loue tous les mois mais qui sont garanties, entretenues. En gros, moi, c'est ce que j'ai pour ma voiture et c'est vraiment nos stress, quoi. C'est vraiment la mensualité la même tous les mois, peu importe ce qui arrive. Donc, c'est hyper confortable pour gérer ton budget. Donc, c'est sûr que même si c'est ce que font un peu les opérateurs en France, c'est-à-dire que tu peux, par exemple, tu veux t'acheter un iPhone, je sais pas, un iPhone 10 ou 10R ou 11, tu vas payer, je sais pas, 200€, et puis le reste du prix sera mensualisé tout le long de ton engagement. Mmh. Donc ça te fait qu'une petite somme à sortir, mais c'est vrai qu'au bout de 2 ans, bah, c'est ton téléphone t'appartient, tu renouvelles ou pas ton forfait. Mais c'est vrai que si Apple se mettait sur ce créneau-là en intégrant la location de l'appareil, plus l'Apple Care, forcément, plus un support technique, faudrait calculer, mais ça serait bien qu'ils viennent à ça, et puis après, ils reprennent les téléphones, ils les recyclent, enfin,
ouais, c'est
même
ça.
Écologiquement, ça serait peut-être pas mal.
Ouais, effectivement. Fait que, j'ai peut-être pas été clair, il y a vraiment le forfait mensuel dans lequel vous pouvez avoir un iPhone, qui est remplacé à chaque fois qu'il y a un nouvel iPhone. Il y a le Apple Care Plus qui est mensuel maintenant et qui est indépendant en fait du premier service. Là. Vous pouvez acheter votre iPhone et en plus le Apple Care Plus en mensualité juste le Apple Care Plus. Là, vous comprenez là. Fait que dans le fond c'est ça, c'est un plan de service de plus et ça va dans la mentalité d'Apple d'avoir des nouvelles sources de revenus en mensualité un peu plus récurrentes que juste d'acheter un iPhone une fois aux 2 ans ou aux 3 ans.
Ouais.
On passe à, ben dans le fond, on parle de réparation, on parle de fiabilité des appareils. T'avais un élément à nous rapporter, là, une petite réflexion personnelle par rapport à ça, Audrey.
Par rapport aux réparations, ouais, en fait c'est un peu la minute écolo.
Ouais.
En fait, Apple a en août a donné un communiqué de presse pour indiquer que les réparateurs. Alors, en fait, reprenons. Actuellement, quand vous voulez faire réparer votre iPhone ou votre iPad ou votre Mac, enfin peu importe, là on parle surtout d'iPhone, mais vous allez aller soit chez un revendeur agréé Apple,
mm-hmm.
qui a des techniciens agréés, ou vous allez aller dans un Apple Store.
Mm-hmm.
À part ça, bah, il n'y a pas grand-chose d'autre. Donc là, en fait, Apple a annoncé le lancement d'un programme aux États-Unis qui va proposer en fait des réparations d'iPhone pour les iPhones hors garantie. Et du coup, n'importe quelle boutique, on va dire, pourra se fournir en pièces d'origine,
ouais.
en outils, en formation, manuel de réparation, diagnostic, que ceux utilisés dans les services agréés Apple, dans les centres agréés Apple.
Mm-hmm.
Donc si tu veux, ça veut dire que si demain, tu ouvres une boutique, tu as un employé qui adore réparer des iPhones, par exemple, il passe sa certification Apple, c'est gratuit, et du coup, tu peux avoir toutes les pièces pour réparer les iPhones, et donc tu assures à tes clients que c'est une réparation certifiée et des pièces d'origine. Donc ça évite d'avoir des batteries qui sont pas d'origine, parce que ça, il y a pas mal de problèmes, ou des capteurs Touch ID qui étaient pas d'origine et qui bloquaient les téléphones. Il y a eu quand même beaucoup de problèmes au niveau des réparateurs non agréés qui trouvaient des pièces des pièces pas officielles, quoi, du coup, qu'Apple bloquait logiciellement. Donc là, en fait, c'est pour l'instant que aux États-Unis, mais j'espère que ça va s'étendre partout. Et donc, n'importe quelle boutique de réparation informatique va pouvoir s'équiper de pièces d'origine tant qu'il y a au moins un technicien qui agrée Apple. Et je trouve que c'est cool, parce que du coup, on pourra aller un peu n'importe où. Moi, je vois, j'habite... En Bretagne, on va dire, en France, il y a un gros revendeur Apple qui est quasiment partout. On n'a pas d'Apple Store. Et sinon, on a les petites boutiques, donc qui sont quand même beaucoup moins chères, mais on ne sait pas ce qu'ils mettent comme pièces, quoi.
Ouais.
On sait pas... On n'a pas la garantie que c'est des pièces Apple. Et vu les prix, j'ai un doute, tu vois. Donc là, en fait, si cette boutique-là, par exemple, veut... être certifié, enfin, en fait, ils sont certifiés Apple dans le sens où il y a au moins un technicien, ils peuvent avoir donc les pièces d'origine. Et je trouve ça bien, voilà. Et en plus, c'est un service qui est la réparation, en fait, du coup, sera certainement au même prix qu'Apple. Mais en tout cas, le technicien peut être formé gratuitement chez Apple, il peut avoir sa certification gratuitement. Voilà. Donc, je pense que c'est vraiment Apple qui s'ouvre un peu à tous les petits réparateurs. Aux États-Unis pour l'instant, et c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle pour plein de choses, plein de problèmes techniques qu'on avait, en fait, quand les iPhones étaient réparés un peu n'importe comment, quoi.
Ouais, c'est ça, ça démocratise, puis ça va... Bah, à terme, ce qui est bon aussi, c'est que ça risque de prolonger la durée de vie de certains appareils, hein, parce que des gens qui ont peut-être pas la capacité d'aller les faire réparer ou qui ont des pièces de mauvaise qualité qui font que, bah, je l'abandonne, mon iPhone, alors qu'il est encore peut-être très utilisable et même encore sous une version à jour du système d'exploitation. Fait que je comprends, tu sais, l'aspect écologique qui est intéressant en plus là-dedans, là, ce que tu disais tantôt.
Oui, parce que si les gens peuvent faire réparer facilement, donc à proximité de chez eux, ils font ce choix-là, puisque c'est toujours moins cher qu'un nouvel appareil.
Donc, ouais, effectivement.
Voilà. Il y a des gens qui changent d'iPhone parce qu'ils ne peuvent pas faire réparer proche de chez eux, quoi.
Ouais, effectivement. Puis toujours dans la lignée écologique un peu, ben vous savez que Apple, c'est toujours la même expérience d'un téléphone à un autre. Maintenant, tous ceux qui ont des iPhone 6S en montant, vous allez avoir la dernière génération de iOS, ce qui veut dire que à part les capteurs ou les nouvelles fonctionnalités, vous allez avoir exactement la même expérience du système d'exploitation que le iPhone 11 Pro qui va sortir. On met à part les fonctionnalités de photos qui sont beaucoup plus avancées dans le iPhone 11 Pro, mais un iPhone 6S va avoir iOS 13, il va avoir les mêmes nouvelles fonctionnalités que le dernier iPhone qui sort. Alors ça aussi, c'est intéressant de le dire parce que ça ne veut pas nécessairement dire de changer d'iPhone à chaque année quand il sort. Vous avez beaucoup, beaucoup d'iPhones, même dans dans l'usager, dans l'occasion, qui peuvent être mis à jour avec le dernier système qui va sortir bientôt.
Oui, oui, oui. En fait, c'est ça, c'est que iOS 13, donc, est vraiment compatible quasiment avec les appareils vendus ces 5 dernières années, puisque le 6, c'était quand ? C'était en 2015, ouais, c'est ça. Donc ouais c'est vraiment bien. Donc oui, en effet, et je crois que ça optimise encore plus l'autonomie. Enfin vraiment, depuis iOS 12, on a senti le vent tourner par rapport à l'optimisation des appareils. Donc c'est bien. Bah oui, les 5S du coup vont rester sous iOS 12, mais en même temps c'est pas grave parce que franchement, on peut garder un appareil avec un système précédent pas mal de temps. Hein. C'est pas tu vois qu'ils ont fait une mise à jour pour les iPhone 4.
C'est vrai.
J'ai une cliente qui a encore un iPhone 4S.
Ouais.
Qui s'en sert uniquement pour téléphoner et pour les SMS. Et elle me dit, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai une mise à jour. Alors que mon iPhone, il est super vieux et voilà. Et en fait, c'était une mise à jour par rapport à la précision du GPS ou je sais plus exactement. Mais voilà. iOS 9.3.5 a été mis à jour, quoi. Et c'est là où moi, j'ai envie de dire merci Apple. C'est cool. Franchement, ils oublient pas les clients qui ont des vieux appareils, quoi.
Ça a été effectivement la surprise dans les dernières semaines d'avoir des mises à jour sur des iPhones qu'on savait pas qui allait en avoir, effectivement. Dans Apple différemment, on aime beaucoup l'histoire. On aime beaucoup l'histoire d'Apple. Et j'ai enregistré, il y a quelques semaines maintenant, avec l'ami Jean-François, une petite capsule sur l'histoire de Jonathan Ive. Et on vous la diffuse maintenant. Dans Apple différemment, on aime beaucoup l'histoire et cette semaine, on pouvait pas passer sous silence l'annonce qui a été faite de Jonathan Ive de quitter la barque de Apple. Et j'ai avec moi Jean-François. Ça a été un bon match le mois passé. Alors ce mois-ci, on récidive ensemble. Bonjour Jean-François.
Bonjour.
Alors, tu m'as proposé rapidement de parler de Jonathan Ive. On va aller plus vite, on va dire Johnny Ive, comme Steve Jobs aimait le surnommer. Est-ce que, à chaud comme ça, ça a été un choc pour toi d'apprendre que Jonathan s'en allait?
En fait, c'est sûr que ça surprend toujours parce que Johnny Ive et Apple, c'est presque indissociable. Ouais. Mais d'un autre côté, quand on regarde les dernières années, je sentais quand même un certain détachement au niveau des projets qui ont vraiment directement rapport avec les appareils électroniques en tant que tels.
Alors, on va mettre dans les notes de l'émission, tu as fait un très bon billet de blog sur le sujet de réflexion. On va essayer de, en diagonale, un peu placer tes pions, comme tu dis, que tu as écrit, en fait, dans ton billet de blog. Moi, je vais juste revenir un petit peu sur qui est Jonathan Ive. Jonathan Ive, c'est un Londonien né le 27 janvier 1967 qui a été élevé là-bas et qui a commencé en fait chez Apple dans les années 90. Au début des années 90, il travaillait pour un bureau londonien de design qui s'appelait Tangerine Design et avait pour client Apple. Et pour la première fois, il a eu un contrat avec Apple et a été travailler pour eux autres et a travaillé sur le PowerBook en 92 avec eux. Et finalement, Il a tellement été apprécié chez Apple que ils l'ont gardé. Alors à partir de 92, on peut dire que Jonathan Ive est arrivé, grand designer, designer industriel, et a fait plusieurs produits sous son règne. À partir de 98, il a travaillé sur le iMac G3, le G4 Cube en 2000, 2001, le iPod, PowerBook, le iPod Shuffle, les iPods, on peut pas le cacher, Mac Mini, iPhone, iPad, bref, une flopée incroyable de produits qu'il a travaillé au sein d'Apple. On peut pas aussi parler de Jonathan Ive comme designer, grand designer d'Apple, sans parler de la relation qu'il avait avec Steve Jobs. Relation qui était au début qui ne semblait pas bien commencer. Parce que vous savez, Steve Jobs est parti d'Apple, il est revenu dans les années fin des années 90, et la première rencontre avec Steve Jobs et Jonathan Ive n'a pas été vraiment un grand succès, même que Jonathan Ive avait préparé sa lettre de démission parce qu'il savait que Steve Jobs avait, dans sa petite poche arrière au retour de chez Apple, d'engager l'Allemand Richard Schapper, qui est lui aussi un grand designer, mais qui est un designer du ThinkPad d'IBM. Et Richard Schapper a décidé de ne pas embarquer dans la barque Apple, ce qui a fait que le premier le résultat indirect de cette non-acceptation d'embarquer dans l'histoire d'Apple a fait que Jonathan a pu exercer et montrer à quel point il était bon. Et finalement, il s'est fait rapidement surnommer le joyau d'Apple, le joyau de l'entreprise, en fait. Toi, au niveau, Jean-François, au niveau de Jonathan Ive, qu'est-ce qui t'a marqué le plus dans l'histoire, peut-être dans ses débuts, vu que tu connais très, très bien la marque, les premiers produits d'Apple ont dû être mythiques pour toi, de Jonathan?
Effectivement, en fait, moi, j'ai été un fan, je suis un fan de la pomme depuis les débuts, en fait, le début des années 80, donc au moment où Steve Jobs était évidemment encore présent. Évidemment, il a quitté et quand Steve Jobs est revenu, puis que les nouveaux produits ont commencé à faire leur apparition chez Apple, on a vu tranquillement un langage visuel s'installer tranquillement d'un produit à l'autre. Et ce qui m'a vraiment marqué, comme plusieurs d'ailleurs, je pense, c'est la sortie du iMac semi-translucide, qui était vraiment un design particulier, singulier. C'est quelque chose qui m'avait complètement bouleversé au premier regard.
Il a vraiment frappé l'imaginaire de tout le monde quand il a fait cet ordinateur-là avec Steve Jobs, parce qu'il était incontournable, cet ordinateur-là. Il marquait une cassure complètement dans le design. On se rappelle, à cette époque-là, tous les ordinateurs étaient beige, gris, carré un peu. Ça prenait une tour, un écran à côté assez souvent. Il y avait eu quelques petites excursions d'Apple avant ça, mais tous les designs étaient assez tristes. Et là, on arrive avec un ordinateur de couleurs, avec plusieurs couleurs, en fait, et translucide, et tout intégré, comme l'était à l'origine le Macintosh, en fait, tout intégré. Ben là, on revenait à peu près au même principe avec le iMac. Est-ce que tu as eu un iMac, toi?
Non, j'ai pas eu d'iMac, malheureusement. J'ai pas. Moi, je suis rentré parce que j'ai une longue parenthèse où j'ai boudé un peu la marque, mais je suis revenu à la pomme en 2005 avec l'iMac blanc de 24 pouces. Donc, ça a été mon retour en grande pompe comme consommateur des produits Apple.
Ouais. Ce produit-là a quand même été marquant dans les magasins. Je me souviens très bien de voir les gens être attirés vers ces espèces d'ordinateurs qui ressemblaient à des bonbons bleus, rouges, oranges, avec des souris rondes. C'était vraiment une cassure avec tout ce qui se faisait avant comme ordinateur. Et tu te rappelles aussi le iBook G3 qui était sorti dans les mêmes teintes aussi. Là. C'était un ordinateur portable qui ressemblait à un coquillage, clamshell. Mm-hmm. Vous savez, le dessin de Shell, la compagnie pétrolière, c'était à peu près ce design-là à l'époque, dans les mêmes teintes. Je me suis surpris à fouiller un peu les petites annonces pour trouver des gens qui en ont conservé de manière intacte ces ordinateurs-là avec les boîtes d'origine. Et je me rappelais pas à l'époque que certaines compagnies avaient embarqué dans le délire, c'est-à-dire Lexmark, les imprimantes, avaient aussi embarqué dans le délire pour copier complètement les teintes du iMac de l'époque et vendre en fait l'imprimante qui allait très bien avec ton e-book, soit ton iMac. En fait, même je pense c'est dans les premiers débuts du i quelque chose, hein.
Exact, ouais. Je me souviens que plusieurs compagnies qui n'étaient pas nécessairement reliées au domaine de l'informatique individuelle, de l'informatique personnelle, qui se mettaient à copier les matériaux du iMac, donc l'espèce de translucidité du plastique, ouais. Dans des accessoires comme par exemple des séchoirs à cheveux ou des trucs du genre, avec aussi des références aux mêmes teintes de couleurs. C'était quand même assez fascinant de voir à quel point Apple avait de l'influence en dehors du milieu de l'informatique.
Alors, je vais passer quelques produits assez célèbres de Johnny Ive, qu'on va passer quelques instants dessus. Le Power Mac G4 Cube, qui était assez incroyable. Jean-François, tu en as parlé dans ton article. Qu'est-ce qui était le plus incroyable dans cet ordinateur-là?
Ben, en fait, c'est la forme, bon, d'abord le côté translucide, mais aussi la forme qui faisait en sorte que sur le dessus, il y avait la sortie du CD qui sortait vers le dessus et qui utilisait le fait que la chaleur, étant donné qu'elle monte, ben, le refroidissement se faisait comme une cheminée. Oui, donc, ça, c'était une première chose qui était fascinante. Deuxièmement, c'est que le fait qu'il y avait le boîtier intérieur de l'appareil qui était opaque, mais la base était transparente, ça donnait l'impression vraiment que l'appareil était en suspension dans les airs. C'était fascinant. C'était vraiment incroyable.
Et puis, on branchait les connectiques par en dessous et la chaleur se faisait comme une espèce de cheminée, comme disait Jean-François. Savais-tu qu'il est encore exposé au Musée d'art moderne MoMA de New York?
Non, pas du tout.
Alors, c'était pas n'importe quoi en termes de design. Il avait vraiment réussi le coup avec ça. Dans tous les produits que Johnny Ive a fait avec Steve Jobs, un des plus mythiques et un aussi qui a encore fait une fracture avec le reste de la gamme parce que c'était un produit qu'on s'attendait pas qu'Apple allait sortir, un produit de musique, l'iPod.
Oui, oh là là, oui.
Alors ça, l'iPod, c'est 2001 avec un design assez incroyable. Toi, en as-tu un iPod, les premières générations?
J'ai eu, dans les premières générations, j'ai eu le iPod blanc où il y avait quatre boutons qui étaient alignés horizontalement, dans le fond, puis qui s'allumaient de couleur rouge. Donc, ça a été mon premier appareil qui n'était pas un ordinateur en tant que tel, comme un iMac ou autre chose.
Et le secret du succès, en fait, du iPod, c'est que, ben, c'était ses écouteurs blancs, distinctifs. Il tenait absolument à ce que, quand les gens se promènent dans la rue, on sache tout de suite sur les oreilles de la personne ce qu'elle avait, ce qu'elle écoutait, puisque l'iPod avait comme vocation d'être dans les poches, mais il fallait que les gens sachent avec quoi on écoutait la musique. En fait, quelle marque était le baladeur? Et en ayant les écouteurs blancs, on pouvait tout de suite distinguer qui avait un iPod de qui avait encore un Walkman à cassette.
Exact, ouais.
Auto-reverse, comme on dit, à l'époque. Alors, le PowerBook 150 et G4, avant le MacBook, il y a eu le PowerBook, les deux modèles en particulier, qui étaient faits en espèce de métal, qui a été vraiment... Après ça, il y a eu évidemment le MacBook Air, mais tout ce qui est travail d'aluminium, ça a été vraiment une grosse passe après ça chez Apple, où on appelait ça l'unibody, où le métal, même encore aujourd'hui, hein, c'est les types de design qu'on a d'industriel chez Apple pour les appareils. Vous avez vu d'ailleurs le dernier Mac Pro, le iMac, le Mac Mini, les MacBook Pro. Sont tous à peu près de cet alliage-là. Ça a été vraiment un grand virage pour Apple à partir du PowerBook. Toi, tu as présentement quel type de Mac?
Actuellement, j'ai un iMac 2017. donc un 21 pouces et demi, donc évidemment tout d'aluminium
exact.
Pour ce qui est de la structure et du châssis. C'est effectivement, c'est ce que j'ai actuellement.
Dans les produits mythiques, vous voyez un peu hein, toujours ce que Jonathan Ive a insufflé en termes de design. Évidemment, ben on pourrait pas passer sous silence l'iPhone, qui a été assez incroyable en termes de design au début, qui n'était pas en métal, lui, au début, en plastique. Jusqu'à il n'y a pas longtemps encore, c'était encore Jonathan Ive qui travaillait. Puis là, on va te faire parler après ça sur ton article, parce que est-ce que tu sembles dire dans ton article, c'est qu'on ne verra pas la fin des travaux de Jonathan Ive cette semaine. D'après moi, il y en a encore beaucoup dans les cartons.
Oui, effectivement.
À un moment donné, dans l'histoire de Jonathan Ive chez Apple, j'imagine que le gars avait besoin de faire plus, avait besoin de faire autre chose que juste du matériel industriel, et on lui a confié tout ce qui était design des systèmes d'exploitation, tout ce qui était les interfaces, tout ce que vous interagissez avec un iPad, vous interagissez avec un MacBook, et Jonathan Ive est en arrière de ça. Ce qui a marqué, en fait, le passage de Jonathan Ive dans les systèmes d'exploitation d'Apple vers 2013, à partir d'iOS 7, c'est la fin du scomorphisme, la fin de ces espèces d'icônes qu'on voit qui ressemblent à des choses physiques. Typiquement, je me rappelle le calendrier ou le carnet de contact, où ça ressemblait à un carnet de contact, mais c'est ce qu'on appelle le scomorphisme. Jonathan Ive veut casser ça, veut mettre son empreinte sur les systèmes d'exploitation, et on a affaire maintenant à un aspect, ce qu'on appelle un peu plus acidulé des interfaces au niveau de chez Apple. Alors, il s'est pas restreint à tout ce qui est création physique, il a été dans le monde numérique, et on voit de par les années certaines arrivées de Jonathan Ive. Il a participé évidemment sur l'Apple Watch, qui a jamais eu vocation d'être ronde, qui a toujours été carrée, elle devait être carrée. Un des gros problèmes de l'Apple Watch dans le design, qui a été très long à établir à partir de 2014, en fait en 2012-2013, c'était que Jonathan Ive voulait absolument, dans l'interface de l'Apple Watch, des coins arrondis. Alors, l'Apple Watch est carré avec des coins arrondis, mais dans l'interface, vous voyez très bien, quand vous affichez des photos ou des choses comme ça dans l'interface de l'Apple Watch, que les coins ne sont pas arrondis. Ils ont essayé toutes sortes de techniques, mais ça ne fonctionnait pas. Vous le voyez très bien dans l'interface de l'Apple Watch 4, ce nouvel écran, où là, il a réussi à faire un semblant d'arrondi dans les interfaces. C'est plutôt bien réussi. Vous verrez jamais dans les interfaces d'Apple des coins carrés, mais l'Apple Watch est une exception. Est-ce que tu as une Apple Watch, Jean-François?
Oui, effectivement. J'ai la quatrième, la série 4, au coin arrondi, justement.
Exact. Ouais. Ça a été sa marque de commerce. Steve Jobs aussi tenait à des coins arrondis. Dans la petite histoire de l'Apple Watch, en fait, on pourra juste citer ou nommer que ils ont décidé de faire l'Apple Watch. Et je sais pas si ça va leur tenir longtemps. Ils ont décidé de faire l'Apple Watch quand ils ont vu ou su ce que faisait Google avec les Google Glass. Chez Apple, Jonathan Ive trouvait vraiment ça pas très... comment on dirait? Je vais vous citer ce qu'il a dit, là. Quand j'ai vu les Google Glass, c'était évident que sur le visage n'était pas la place idéale pour un tel produit. Le poignet est le seul endroit logique et intuitif. C'est un peu l'idée du design de Jonathan Ive par rapport à l'Apple Watch versus les Google Glass. Et moi, je ne savais pas qu'il y avait ce lien-là avec les Google Glass et l'Apple Watch. Étais-tu au courant, toi, Jean-François?
Non, j'étais pas au courant, mais je suis tout à fait d'accord avec sa conclusion.
Et puis, on arrive dans les dernières années où Jonathan Ive a pris un peu de recul par rapport à l'avant-scène des annonces de produits, où il a travaillé beaucoup et très fort pour le campus d'Apple. Vous savez, le Hyperloop, là, c'est le centre... Oui, vas-y.
Oui, c'est ça, c'est en fait l'Apple Campus qui était
Apple
une espèce
Campus.
de beigne, si on peut dire. Ouais.
Ouais, fait que vous voyez encore une fois sa philosophie, là, le Apple Campus est pas du tout, du tout carré. Il est très, très rond.
Absolument.
Et c'est un peu la marque de commerce de Jonathan Ive. Bon, évidemment, cette personne-là a eu toutes sortes de distinctions de 2000 à 2006, 2007. Il a même été, je recherche dans mes notes, mais il a même été par la reine d'Angleterre. Le titre exact, c'est...
Il a été nommé, ce qui fait que ça lui donne le titre Sir Jonathan Ive.
Ouais, c'est ça.
Exact.
C'est
chevalier de... je sais pas quoi, là.
Ouais, j'ai malheureusement pas dans mes notes, là, désolé, mais il y a eu des prix incroyables. 2002, meilleur designer. 2003, Royal Society of Art, le nomme le Royal Designer of Industry. Il remporte des prix de plusieurs associations et ainsi de suite. Et maintenant, ben, c'est ça, même la reine d'Angleterre l'a anobli du titre Sir Jonathan Ive, tellement il a fait beaucoup pour le design industriel.
Exactement.
Alors, ça fait un peu le tour rapidement du passage de Jonathan Ive, qui a été surnommé par Steve Jobs le joyau de l'entreprise. Est-ce que, et puis je sais un peu les réponses, est-ce que tu penses que Apple a perdu maintenant tout son joyau parce que tu vas nous dire où s'en va Jonathan Ive?
En fait, M. Ive s'en va former un studio indépendant du nom de Love From. Donc, je traduirais en français avec amour,
ouais, c'est ça.
Si je peux dire. Et je pense que c'est quelque chose qui concrétise parce que les rumeurs disent que Jonathan s'était, si on veut, distancé du travail chez Apple en tant que tel. Donc, il travaillait beaucoup de son studio. Alors, je pense que ce volet-là, c'est simplement une formalisation de ce qu'il faisait depuis plusieurs mois. C'est sûr que quand on a une personne comme Steve Jobs qui le présente comme étant le joyau de l'entreprise, on a tendance à associer tous les succès du design à une seule personne. Mais il ne faut pas oublier que c'est une personne qui travaille avec un groupe de designers de classe internationale qui sont évidemment un peu dans l'ombre parce qu'on n'entend à peu près pas parler de ces gens-là. Mais c'est quand même un studio où les gens sont très proches l'un de l'autre, qui sont là depuis très longtemps. Et ces gens-là demeurent pour la plupart. Donc, c'est pas, on ne fait pas de table rase des designers chez Apple. C'est une personne qui décide, je pense, d'ouvrir un peu plus ses horizons en dehors de la pomme.
Et selon toi, il part et il n'y a plus aucun produit de préparé, hein? C'est ça c'est ce qu'on imagine.
Oui, effectivement, la tentation serait grande de dire que demain matin ou cet automne, lorsque les nouveaux iPhones vont sortir, que ce sera complètement différent. Mais malheureusement, c'est pas comme ça que ça fonctionne, surtout pas chez Apple. Apple, c'est une compagnie qui ne fonctionne pas dans le court terme, très rarement du moins. C'est une compagnie qui travaille sur le moyen et le long terme. Et les produits qu'on va voir cette année, c'est des produits qui sont en préparation depuis quelques mois, même en fait plusieurs années. Donc, même si le prochain iPhone va ressembler beaucoup à celui de l'année dernière, ce qu'on sait pour ceux qui suivent le fonctionnement de la compagnie Apple, c'est des produits qui sont vraiment en préparation sur une longue échelle en termes de temps. Ce qui fait que je pense pas qu'on va voir... En fait, il y a deux choses qui peuvent se produire, je dirais, dans les prochaines années. D'une part, soit qu'Apple décide de prendre la voie de la continuité, ou l'autre possibilité, c'est vraiment de vouloir marquer le pas, si on veut, sur une nouvelle ère, sur une nouvelle façon de voir les choses d'un point de vue appareil informatique, en, par exemple, identifiant peut-être une personne à l'intérieur du groupe actuel ou quelqu'un de l'extérieur qui pourrait un peu prendre la relève de Johnny Ive, même si, en tant que tel, c'est quelque chose qui n'est pas nécessairement une chose facile à faire. Mais je dirais que c'est une des deux possibilités. Mon feeling actuel, c'est qu'Apple va choisir la continuité, simplement à cause de Tim Cook, qui est une personne qui me paraît quand même, somme toute, relativement conservatrice dans sa façon de gérer l'entreprise. à certains égards. Donc, j'ai l'impression qu'ils vont y aller plutôt pour la continuité.
La continuité des produits. Certains diront que Jonathan Ive voulait ou désirait quitter parce que ben Apple se dirige de plus en plus vers les produits, vers le service. Est-ce que tu as une opinion par rapport à ça? Est-ce que pour toi c'est une mésentente à l'interne ou c'était naturel que Ive s'en aille?
Je pense que c'est pas nécessairement une mésentente. Je pense que Johnny Ive, en travaillant sur des projets comme le campus, Apple Campus, donc c'est un projet strictement d'architecture. Oui, il y a des volets technologiques à l'intérieur de ça, mais essentiellement, c'est un projet d'architecte. Donc, évidemment, il n'était pas tout seul là-dedans, mais ça démontre quand même un désir pour lui de vouloir élargir ses horizons. Même la montre Apple Watch est un exemple. C'est une personne qui semble être très passionnée par les montres en général. Et pour lui, l'Apple Watch était une occasion, encore une fois, d'élargir ses horizons. Donc, je pense que c'est vraiment une décision qui vient du bonhomme en tant que tel. Je pense pas qu'il y ait vraiment de chicane ou quoi que ce soit.
Et tu le dis hein, dans ton article de numericcitizen.me, tu le dis très bien. Hein, c'est pas, il avait déjà quitté. On le sentait très bien que c'était déjà préannoncé le départ de Jonathan.
Effectivement, on voit à chaque keynote, généralement quand il y a des nouveaux produits qui sont annoncés, durant le keynote, il y a une séquence vidéo de quelques minutes qui va venir appuyer, si on veut, la présentation du keynote. Et c'était la plupart du temps Jonathan Johnny Ive qui faisait la narration du vidéo. Le dernier qu'il a fait, c'est celui du Mac Pro, mais avant ça, ça faisait quelques mois, quelques années, en fait, où on ne l'entendait pas vraiment parler dans ces présentations-là.
Et puis, ben, Tim Cook a annoncé que ben, l'off-rom serait utilisé pour Apple, en fait, que Apple serait un client de la future compagnie, en fait, de la nouvelle compagnie de Jonathan Ive. Est-ce que tu y crois, toi?
Ben, je pense que ce qu'il faut comprendre d'Apple comme entreprise, c'est que c'est une compagnie qui est extrêmement focussée sur le design, ça, donc je vous apprends rien, mais le design au sens extrêmement large du terme. Oui, il y a le design des appareils, il y a le design des interfaces, de ce qu'on utilise comme logiciel sur nos appareils Apple, mais il y a aussi le design dans la façon de communiquer les choses à l'extérieur, dans la façon de vraiment de s'y prendre pour parler à la presse ou d'envoyer des messages. Et je pense que ce qu'on voit ici, c'est un exemple vraiment typique de la façon d'Apple de concevoir le message de façon à ne pas trop envoyer un message négatif à la presse et dans les marchés financiers. Il faut se rappeler qu'Apple, c'est une compagnie publique après tout. Donc, l'idée, c'est d'essayer de présenter la chose comme étant sous la forme d'une certaine continuité. Je nie pas le fait que probablement que Johnny et sa compagnie son studio de design va collaborer avec Apple, mais il n'en demeure pas moins que lorsqu'on n'est pas dans l'entreprise, lorsqu'on n'est pas physiquement présent dans un studio, il y a une limite, surtout à Apple qui aime beaucoup contrôler, si on veut, tous les aspects physiques et autres de la conception des appareils. Je pense que c'est une question de temps avant que les deux, vraiment, de façon définitive, prennent des chemins différents.
Alors, pour le remplacer, on a annoncé Jeff Williams. Qu'est-ce que tu penses de cette annonce-là?
C'est surprenant. C'est sûr que Jeff Williams, c'est une personne qui semble être... D'abord, c'est une personne qui... C'est un directeur qui s'occupe des opérations de l'entreprise, donc tout ce qui est approvisionnement, tout ce qui est chaîne de fabrication et tout. Donc, c'est quelque chose qui est très, je dirais...
Mécanique.
Et c'est pas, mécanique. Ouais. Hein, on n'est pas dans l'émotion, on est plus dans la mathématique. Et donc, c'est surprenant. Par contre, on l'a vu apparaître de plus en plus, surtout lors des lancements à l'automne des nouvelles versions des montres. C'est lui qui fait le segment de la montre. Mais ce qu'on nous a appris récemment, c'est que c'était un de ses projets. Pour lui, c'est de la montre, c'est quelque chose qui lui tient à cœur. Et donc, c'est peut-être un petit peu l'extension de ça pour lui d'élargir un peu ses horizons. Mais je pense que c'est encore une fois, c'est transitoire. Ça ne sera pas définitif.
D'après toi, qu'est-ce qui va se passer après au niveau de la marque, des produits? Tu en parles dans ton blog. J'aimerais juste t'entendre par rapport à ça.
C'est sûr que je pense que, comme je disais tout à l'heure, Apple va choisir probablement la voie de la continuité. D'année en année, je pense que dans les prochaines générations d'appareils, peut-être à partir de 2020, je dirais pas avant l'automne 2020, parce que c'est les produits qui sont actuellement en préparation, c'est pas les produits qu'on va annoncer cet automne. Ces produits-là sont déjà en mode de test finaux. C'est vraiment plus les produits de l'année prochaine. Puis encore une fois, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de détails qui sont déjà arrêtés par rapport à ces produits-là. On parle aussi d'une rumeur d'un MacBook dont la dimension est un peu plus grande, à 16 pouces diagonale pour l'écran. Même ce produit-là est probablement en phase de test final avant son lancement. Donc, je pense qu'avant 2020, on ne verra pas grand-chose, malheureusement. Par contre, qu'est-ce qui change plus facilement, c'est le côté logiciel.
Oui.
Tu l'as abordé tout à l'heure. Je pense que quand Jony Ive a élargi ses responsabilités pour le volet logiciel, ben, un exemple concret de l'effet de ça, ça a été iOS 7, qui pour moi est encore une question de... J'ai une relation amour-haine avec cette version d'iOS. Et je pense que dans l'histoire, on va se souvenir de cet événement-là, de ce moment-là comme étant, je pense, il était évident que Jony Ive n'est pas nécessairement une personne qui est un designer de logiciels. Je pense que c'est son dada à lui, c'est le matériel, les matériaux. Le logiciel, je suis pas impressionné du tout là, de ce qui a été fait. Donc, je pense qu'avec iOS 13, par exemple, on voit déjà un certain retour en arrière tranquillement sur des choses comme les boutons sont un peu plus faciles à reconnaître comme étant des endroits où on peut taper sur le doigt. C'est des choses qui avaient pratiquement disparu avec iOS 7. Là, on est comme un retour en arrière et je pense que c'est bon signe à ce niveau-là. Et le logiciel, c'est quelque chose de malléable, donc c'est plus facile de bouger rapidement, de se retourner sur un dissème. Par contre, le matériel, vraiment, c'est quelque chose à long terme.
Ben, écoute, en terminant, Jean-François, dans ton article, il y a une petite pensée finale, là, et j'aimerais ça que tu la partages aux auditeurs pour s'ils veulent, en fait, continuer la discussion avec toi sur ton blog. Le départ de Jony Ive est surprenant, mais ça pourrait faire quoi au final?
Bien, je pense que c'est une occasion pour Apple peut-être de remettre un certain nombre de choses en question, puis d'envisager l'avenir sur peut-être des nouvelles bases au niveau design et peut-être je pense c'est quand je disais tout à l'heure que Apple design à peu près tout, donc leur prochain chapitre sans Jony Ive, je pense qu'il va reposer sur de nouvelles bases avec une équipe en place, mais qui va évoluer puis qui va nous amener ailleurs d'un point de vue design industriel.
Oui, effectivement, je suis d'accord avec toi. C'est pas une compagnie. La compagnie, comment je pourrais expliquer ça sans être blessant, c'est pas une personne généralement dans une compagnie qui fait la compagnie. C'est un peu tout. Et quand une personne quitte, généralement, ça laisse place à certaines nouvelles idées. On se rappellera, exemple chez Microsoft, quand Steve Ballmer est parti et que Satya Nadella est arrivé, il y a eu un nouveau virage, un nouveau souffle chez Microsoft. Et ça pourrait être exactement la même chose qui va arriver. On peut trouver ça un peu ridicule, mais moi, je suis vraiment vraiment convaincu que certaines personnes étaient éteintes par Jony Ive, sans vouloir dire que Jonathan Ive était très, très, très imposant, sans vouloir dire quoi que ce soit, mais ça reste quand même que quand t'as un gars qui a gagné autant de prix, quand t'as un gars qui a fait l'histoire, quand t'as un gars que Steve Jobs a surnommé le joyau de la compagnie, c'est sûr qu'un jeune qui arrive avec des nouvelles idées un petit peu différentes de ce que Jonathan Ive aimerait, ben, il va peut-être des fois garder ses idées. Et le fait que quelqu'un prenne sa place, que Jony Ive s'en aille, ben, peut-être que ça va arriver avec des nouvelles idées, des nouvelles tendances. Et moi, je vois ça très, très positif aussi comme toi.
Ah oui, tout à fait. Je suis absolument d'accord avec la façon dont tu le présentes.
Écoute, Jean-François, un énorme merci à toi. On a fait le tour du passé, des réalisations de Jonathan et puis ben des certaines petites pensées philosophiques. Je te remercie énormément. On peut te retrouver où sur Internet?
Donc, sur mon blog, c'est numericcitizen.me. C'est la première chose. Et je suis aussi sur Twitter, donc Apple Observer, avec un souligné entre les deux mots. Donc, je suis actif sur ces deux plateformes.
Je te remercie beaucoup à toi.
C'est moi qui te remercie.
Salut.
Salut.
Et voilà, merci beaucoup Jean-François pour cette capsule historique. Toi, je t'en ai parlé brièvement, mais je pense que Jonathan, t'as vu ça passer, mais ça t'a pas plus marqué qu'autre chose.
Ben en fait, je me suis dit, je comprends en fait, Johnny, je te comprends, parce que je me dis le il est quand même designer, tu
ouais,
vois. Et
ouais.
Quand tu dois travailler pour la même société sur quasiment les mêmes produits depuis 20 ans.
Ouais.
Tu sais, il y a un moment, il a peut-être envie de designer, je sais pas, des chaises, des tables, des bâtiments. Enfin, tu vois, je me dis, il avait besoin d'air, en fait.
Mm.
Et comme Apple continue à être son client privilégié, donc il continuera à faire le même travail, sauf qu'il est indépendant, peut-être que du coup, ça va lui redonner un renouveau, tu vois, et qui va nous faire des trucs fabuleux, quoi. Moi, franchement, je me suis dit, c'est plutôt positif, en fait.
Ouais. Ouais, moi aussi.
Ça veut pas dire qu'Apple est fini, c'est juste que voilà, c'est un prestataire externe qui va faire des belles factures. Mais
bon,
c'est ouais, voilà.
Apple s'en fiche un peu, je pense, des factures. Quand on
voit
non,
les
mais
il a raison. Ouais. Franchement, Apple sans son design, ça aurait pas été ce que c'est.
Ah,
clairement.
Ouais, effectivement. Bon, ben c'est ce qui met fin à notre émission du début de la rentrée, en fait, à notre émission de la rentrée 2019-20. On fait le tour de roue de savoir où on peut nous rejoindre. Alors, Audrey, toi, où est-ce qu'on peut te rejoindre et où c'est préférable de te rejoindre? Puis, ben, peut-être aussi parler de tes formations. T'as fait beaucoup, beaucoup de vidéos dernièrement.
Oui, en fait, j'ai continué le rythme de... un tuto par semaine sur ma chaîne YouTube. J'ai sorti un livre aussi, tiens,
ouais.
Sur les, enfin avec Mac Génération qui m'édite cette fois-ci. C'est pas un livre en auto-édition, c'est un livre donc édité par Mac Génération sur la gestion des contacts. Mmh. Donc c'est, j'ai décortiqué toutes les applications de contacts sur Mac, toutes les fonctionnalités, enfin toutes les fonctionnalités de l'application contact, le cloud, la synchronisation avec d'autres services comme Google et tout ça. Et donc c'est si vous voulez mieux gérer vos contacts, bien sûr, je vous recommande ce livre qui est à petit prix.
Mmh.
Et on peut me joindre sur Twitter @AudreyCoulot, tout attaché.
Et sur son site web formationapple.fr où vous allez retrouver toutes ces capsules vidéo qui sont excessivement intéressante et pas très longue. Alors pour ceux qui disent « Ah oui, je voudrais bien être formé sur Apple, mais c'est long, c'est chiant se former », ben non, pas avec Audrey. On a des petites capsules de 3-4 minutes et vous en apprenez toujours plus. Et même moi, hein, qui est dans le domaine, je vous assure, c'est même pas un pitch de vente. J'en manque pas une de ces capsules. Il y a toujours des trucs que j'ai oubliés. Vous savez, quand on apprend sur le tas, on creuse pas un dossier comme un spécialiste Apple comme Audrey peut l'être. Et ben, grâce à Audrey, j'apprends toujours plein de trucs. Et je t'envoie plusieurs clients nouveaux sur ta chaîne et sur ton site, Audrey.
Ah, c'est gentil. Ouais. Ouais, ça progresse bien, c'est bien. Je suis contente. J'ai même prévu là des vidéos pendant mes vacances, donc je ne vous oublie pas. C'est déjà programmé.
Excellent. Quant à moi, vous pouvez me rejoindre sur profduweb.com, profduweb.com. Et on se retrouve, le mois prochain, Audrey.
Ouais, avec grand plaisir. On se retrouve en octobre.
Allez, ciao, ciao tout le monde. Bye.
Salut.